M, bonsoir.
Cette émission et les précédentes sont disponibles en streaming et podcastables sur radio1.org. Nous vous retrouvons pour notre piste d'antenne mensuelle avec le programme.
Ce soir, à l'École des Beaux-Arts du Mans, le vernissage de l'exposition synthétique, avec lequel nous débuterons l'émission.
Ensuite,
une interview en direct de Félix Agide et Christian Morin.
Une pièce des premières années par Alice Gravé.
Une pièce de Perrine Clément depuis Dubien, suivie d'une interview par Arnaud Ouin.
Une pièce de Florestan Guterres.
Une seconde pièce des premières années.
Un son de Florian
Béjon. Un deuxième temps, une exposition, le vernissage de l'abbaye Fontevraud, avec une interview de Caroline Hancock par Annie Notard, un micro-trottoir, une interview des étudiants de 5e année art exposant à Fontevraud, et une performance orale par Sandra Richard.
Suivi d'un duplex avec Bourges, une pièce de Lucie Pilon et Thomas Caillet.
Un remix du morceau Slave of Consumption de Mad Mind par Fabien Bourlier.
Reportage, une pièce sur l'Argentine par Lauriane Dino.
Fanfare, musique par Frédérica Peirolo.
Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000. Expo 2000.
Maintenant, nous allons vous présenter l'exposition qui se passe actuellement à l'École des Beaux-Arts du Mans, qui s'intitule Synthétique, dont le vernissage était ce soir. Donc, nous avons notre compagnie Christian Morin, Félix Agide et Thibaut. Donc, merci déjà d'être venu. Donc, cette exposition. C'était une rencontre donc, sur la production robotisée en design et ses implications sur l'organisation du travail, l'intitulé de l'exposition. Est-ce que un d'entre vous pourrait nous présenter ce qu'on peut voir dans, dans le hall des Beaux-Arts du Mans? On a ici deux architectures, deux micro-architectures peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Allez-y, Félix.
Bonjour. Donc, d'abord, il y a une pièce qui a été produite. Je ne sais pas si je parle bien dans le micro. Il y a une pièce qui a été produite à Rotterdam dans le cadre d'un workshop en deux phases. D'abord, la première phase s'est déroulée au Mans et la deuxième phase s'est déroulée à Rotterdam. Ce workshop, en fait, rassemblait des étudiants. De l'École des Beaux-Arts du Mans, de l'École des Beaux-Arts d'Angers, bon, qui sont sous le même PCC, bon, et l'École de design de Valenciennes, et TU Delft, l'école de technologie, l'Université de technologie de Delft, à Rotterdam, à côté de Rotterdam. Et donc ça, c'est la première pièce qui a été fabriquée à Rotterdam, qui a été conçue au Mans, fabriquée à Rotterdam, par des robots. Donc on a fait globalement la forme, les étudiants ont décidé de cette forme qui est, à l'origine devait être un pavillon, donc qui a un peu migré vers une sorte de sculpture comme ça, ou libre, lors de la première phase en novembre 2011. Et puis la fabrication s'est déroulée à Rotterdam. Cette fabrication a été robotisée, c'est-à-dire que c'était un usinage au fil chaud robotisé, dont le code d'ailleurs a été rendu possible par un logiciel qui a été développé par Thibaut Schwartz qui est à ma droite, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, TU Delft bénéficiait de la présence des deux robots, de deux gros robots qui nous ont permis de faire cette pièce. Voilà. Ensuite, il était question de rapatrier cette pièce, de la terminer ici. Il s'agissait de faire une petite finition et puis voilà, de l'exposer. La deuxième pièce présentée, dont vous avez parlé, c'est vrai que si on peut parler de micro-architecture, mais je dirais plus qu'il y en a une qui est d'ordre sculptural, finalement, qui est un travail de design produit par les étudiants, qui est libre. Ouais, c'est une sorte de X, Y, voilà. Et qui est intéressante d'un point de vue de la fabrication quand même, parce que c'est du polystyrène fibré puis enduit. Et puis la deuxième pièce, donc, c'est un foam, automated foam dome, dôme de mousse automatisé, qui est un projet en fait d'étudiants, mais plus que ça, mais c'est un projet qui a été réalisé et conçu par Thibaut Schwartz, qu'on a voulu présenter ici parce que le but de l'exposition, c'est pas simplement de porter la production du design et à l'ère numérique, c'est aussi d'associer à cette production une capacité de domestiquer la fabrication. Cette domestication a été notamment possible, rendue possible par des expériences logicielles, des créations de logiciels, des développements de logiciels comme HAL, qui est un plugin Grasshopper développé par Thibaut Schwartz. Et disons que l'Igloo Automated Foam Dome est la première pièce produite véritablement de A à Z par ce petit logiciel. À Rotterdam, on a créé. On a produit le code de découpe par HAL, mais voilà. Avant, il y a eu le développement de Foam Dome. Donc après, il y a aussi une série de formes qui ont été produites lors de différents workshops, qui sont exposées comme des chutes, comme une sorte de chambre de géométrie. Et il y a des écrans associés qui racontent, sans montage presque, de façon brute, ces workshops. Ces expériences pédagogiques qui sont toujours sur le même registre technologique, c'est-à-dire découpage de polystyrène au fil chaud et robotisation de ce processus. Voilà.
D'accord.
Je sais pas si.
Si.
Oui.
Et durant cette production, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des problèmes?
Ah, bah ouais, beaucoup. Hein. Bah, en fait, c'est un processus très expérimental. La capacité de produire et de fabriquer avec des robots au niveau universitaire, au niveau académique, c'est quelque chose de très récent. Et ne serait-ce que d'introduire ça avec la dimension pédagogique que ça implique dans les universités, dans les écoles d'art, c'est récent, c'est nouveau. On pouvait pas le faire il y a 2 ans, on pouvait pas le faire il y a 3 ans, ou on pouvait le faire, mais alors il fallait vraiment avoir à côté de soi des grands ingénieurs et des grandes capacités productives, des grandes capacités de machines. Donc voilà, forcément on a rencontré des difficultés, mais finalement ça s'est plutôt bien passé, quoi.
Une des premières difficultés aussi qu'on a pu aborder, c'est les moyens pour pouvoir engager un tel workshop, d'où l'idée de l'articulation entre plusieurs écoles d'art pour partager des moyens techniques et de générer cette collaboration qui pouvait conduire et qui amène la constitution d'un réseau de sites au niveau national et international pour permettre la pérennité de ce genre d'expérience.
D'accord.
Je pourrais rajouter que d'un point de vue, disons, de l'évolution du projet, disons que le projet qui est exposé là, l'Automated Foam Dome, par des difficultés, disons qu'on. Enfin, le est juste en lui-même une sorte de témoignage des difficultés qui aujourd'hui parsème l'environnement d'outils donc qui entoure les architectes, les designers, parce que aujourd'hui on est dans il était impossible auparavant de pouvoir très facilement s'approprier les technologies de l'industrie, donc les robots, à travers des interfaces compréhensibles par des architectes, des designers, des artistes. Donc le travail finalement qui est proposé ici et des étudiants, c'est dans une. De toute façon, tout ça, c'est dans un objectif pédagogique. Donc finalement, ce qui est présenté ici aujourd'hui, c'est une première expérimentation de la résolution des difficultés, enfin de la méthode de résolution de difficultés qui ont finalement abouti à justement l'écriture de ce de cet ensemble de fonctions, de programmes, qui permettent de dialoguer à présent de façon plus pédagogique, plus directe, avec les machines, en contournant finalement les limitations industrielles initiales. Donc c'est plus une sorte de témoignage des difficultés, je dirais, en ce qui concerne la pièce Automated Fog Dome.
Pour faire le pont entre ce que disait Christian Morin sur la capacité de production française, disons, dans les universités, les réseaux entre universités, ce qui était très difficile à mettre en place, d'ailleurs, merci Christian, sur cet aspect-là, et ce que dit Thibaut Schwartz, c'est le fait que l'industrie, en termes d'automatisation, a très peu évolué d'un point de vue mécanique depuis les années 70, au fond. Enfin, je schématise bien sûr, mais d'un point de vue technique et mécanique, elle a très peu évolué. Par contre, ce qui a énormément évolué, c'est l'impact, enfin, ce qui a révolutionné radicalement cette capacité productive, c'est l'impact des logiciels. Voilà. Et c'est en ce sens que on présente le workshop qui a été rendu, qui a été une production d'étudiants de 2 semaines, et aussi Thibaut Schwartz qui a permis, parce que c'est ça aussi le futur du design, finalement, c'est à la fois de produire des objets, des formes, des environnements, définir des coûts réduits, etc. Mais c'est aussi de la capacité de créer les propres outils de production et de définir les outillages qui nous permettent. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. Et voilà, bon, c'était ça. Ça fait un ensemble de choses. D'abord, c'est un ensemble. Voilà. Il y a les logiciels. Et ça, c'est ça qui révolutionne véritablement. C'est comme l'ordinateur personnel révolutionne véritablement. C'est pas la technologie du dernier processeur qui révolutionne l'industrie. C'est le fait que l'ordinateur soit parfaitement banal et totalement accessible et pas cher. C'est ça qui fait la révolution. Donc, le design est concerné à partir du moment où il y a une capacité radicale de mutation parce qu'elle est accessible. Voilà.
D'accord. Et est-ce que, à ce stade-là, si je prends par exemple le logiciel qui a été conçu, le logiciel HAL, pour faire ce genre de forme, est-ce qu'on reste actuellement que au stade d'une création plastique, ou un stade d'expérimentation plutôt, ou alors est-ce qu'on arrive à l'appliquer dans le monde
industriel ?
Ouais.
Alors,
ouais.
D'un point de vue purement fonctionnel concernant le logiciel n'est là que pour lier en temps réel une esquisse géométrique qui est produite d'une façon digitale avec une transcription en instruction pour les machines. Donc en fait, la démarche, c'est d'essayer de supprimer les réflexes issus du Fordisme le plus primaire qui ont finalement marqué l'introduction de la robotique dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui la robotique telle qu'on la connaît dans l'industrie automobile reste sur un schéma une tâche, un programme, et du coup on va faire tourner un robot sur un même programme pendant 2-5 ans, je sais pas, mais il y aura finalement aucun emploi de la variation d'informations qui peut être
transmise au robot.
Donc là, finalement, c'est le travail inverse qui est fait, c'est d'essayer de déconstruire ces sortes de réflexes qu'on a acquis je ne sais pas si c'est par facilité, mais en tout cas, c'est par tradition industrielle, et justement de réengager des vrais questionnements sur à quoi servent ces outils et quels sont les modes primaires de fonctionnement et d'utilisation possible pour le design ou autre qui sont ouverts par justement cette sorte de retour aux éléments les plus primitifs du langage de la robotique. Et donc, en termes d'application concrète, ça sert aujourd'hui, on est conscient que finalement un robot, ça peut servir autant d'outils de mesure pour faire des expériences scientifiques que d'outils de formalisation d'une quelconque outil de réalisation d'un quelconque produit. Mais en réalité, c'est des choses qui sont encore développées parce qu'on est encore dans des sortes de réflexes. Voilà, on applique du fraisage, on applique de la découpe au fil chaud, on applique. Voilà, on pense encore le robot en termes d'outils. Et ce que la démarche proposée par le logiciel, c'est vraiment de repenser le robot en termes de mouvement, de vitesse et de langage. Langage en termes d'instruction. Mm-hmm. Donc purement abstrait, finalement.
L'impact, de façon globale, il est sur les formes, ça c'est évident. On est encore dans une... dans des formes symboliques, si on veut parler comme Panofsky, dans des formes symboliques associées à l'industrie, à la seconde révolution industrielle. Mmh. Et l'autre impact, c'est évidemment ce que l'objectif du design et de l'architecture, c'est des prix bas, diminuer la quantité de travail laborieuse et augmenter la capacité de confort, quoi. La capacité... Alors ça, c'est sûr que c'est pas encore... Mais d'ailleurs, cet impact en termes sur la question du travail, il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point l'impact de la robotique va bouleverser totalement la dimension de production et le système de valorisation du travail dans le capitalisme tel qu'on le connaît. Et alors, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la forme, le confort. Quand j'entends confort, c'est climat. C'est pas... Mais il est évidemment plus global, l'impact de la robotique.
Et est-ce que vous pensez pousser le projet plus loin, enfin refaire de ces expériences-là, ou pousser le projet plus loin ?
Ce workshop est le premier d'une série. On espère organiser... tournant entre les différentes écoles partenaires et dans les différents sites aussi capables d'accueillir ces fabrications. L'autre chose, c'est qu'on a déposé, on vient de déposer donc un projet d'unité de recherche pour le PCC, TALM, donc projet qui a été validé par la plateforme de recherche de l'école. Et dans ce cadre-là, étendre aussi ces partenariats aux industriels, aux autres labos de recherche et développer en lien avec la pédagogie, évidemment, comme il y a déjà d'autres unités qui le font comme Grande Image ou Résonance. Donc oui, c'est amené à se pérenniser en termes de workshop et à se développer en termes d'unités de recherche.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Expo 2000 Expo 2000
Initiation sonore, première année. Alice Ribaud et Angélique Lenoir, Le Bar.
Le montant de la Sadness. Il s'agit d'une pièce symbolisant la nostalgie de manière subjective. Elle est construite en deux parties. En premier lieu, la pièce montre un aspect mélancolique dans le temps présent, et la seconde partie est un reverse de la partie qui la précède. Elle renforce davantage l'atmosphère. Quant à la rythmique qui s'installe, elle s'entremêle avec le temps que donne le piano, faisant un mélange temporel, une confusion, comme si la musique était le reflet d'un individu restant perdu dans ses pensées révolues. Tout de suite, Sadness de Florestan.
Camille Chorfi et Anastasia Defay, Petit Papa Noël.
Florian B. et John nous proposent un morceau issu de son dernier album Face, un cocktail détonnant entre musique hip-hop et électronique pour les amateurs de grosses basses et de saveurs survoltées. Alanda.
Expo 2000. Expo 2000. Expo 4000. Expo 2000. Expo 2000.
Une interview de Caroline Hancock, commissaire de l'exposition Sculpturation, qui a lieu à l'abbaye de Fontevraud, et à laquelle ont participé 16 étudiants de l'ESBATALM. Dieudonné Cartier, Marine Serf-5, Aurélien Duchesne, Gabriel Hervé, Kevin Lesney, Quentin Lannes, Ronan Le Creuset, Younali, Juliane Lemoussi, Aurore Obélian, David Picard, Sandra Richard, Julien Roland, Katrina Zvabova, Simon Thieu, Fabien Yvon. Cette écoute vous est proposée par Julie Knebel.
Donc il y a 16 artistes et certains ont plusieurs pièces. L'exposition finalement a lieu dans les celliers et dans les cachots. Dans les cachots, on a la pièce de Sandra Richard, une pièce sonore qui fonctionne très très bien, tout à propos du corps, donc elle nous réveille en fait, elle réveille nos sens déjà pour préparer l'expérience de l'exposition. Et dans les cachots, il y a également une installation in situ d'Aurélien Duchesne, qui, ce sont deux pièces. L'une s'appelle Thé, la Thé, et l'autre s'appelle l'été. Donc c'est un jeu de mots et avec des matériaux très très simples, mais qui racontent une très très belle histoire, qui sont extrêmement intrigants cachés dans cet endroit. Et en face, il y a un skate de Kevin Len qui est en plâtre. Donc l'humour rentre dans l'exposition grâce à lui. Et un éphéméride qui a été réalisé vraiment en pensant à l'histoire de Fontevraud et justement à la prison, réalisé par Quentin Lannes. Ensuite, il y a une série de gravures de Fabien Yvon, qui s'appelle Fossile, une série de 14 gravures qui font face à la fenêtre, à côté d'un extincteur qui est en fait rempli de plomb, fait également par Kevin Lam. Il y a quatre fenêtres qui ont été dressées par Katarina Slavova, qui a ensuite réalisé un dessin. Plusieurs sculptures de Marine Serf 5 qui s'intéressent aux pratiques créatives sur le continent africain et qui revisitent ce qu'elle a pu découvrir pendant de nombreuses visites là-bas, avec des matériaux d'ici, des matériaux de chantier notamment, et qui créent des espèces de fétiches qu'elle appelle non factices. Julien Roland a placé trois de ses fantastiques sculptures actions, notamment la béquille, et Gabriel Hervette a réalisé deux œuvres in situ sous des alcôves. L'une utilise des tiges en métal qui sont habituellement utilisées pour les bateaux, pour dessiner
les formes de la pierre.
Elle a été inspirée par la pierre de Tuffeau ici à l'abbaye de Fontevraud, donc elle a réussi à convaincre certains des travailleurs de chantier ici de lui prêter ou de lui donner plutôt des pierres qu'elle a pu
donc
tailler.
Il y a aussi un avion
pour faire deux formes qui s'appelle et placer de manière assez inconfortable sur des marches. L'avion s'appelle
Simon Thieu a fait
réaliser
deux installations. Oui. L'une d'elles s'appelle Distancier, dans l'une des alcôves qui gangrène un petit peu une alcôve. Et Oui, donc sur l'autre œuvre s'appelle sans titre, mais travaille avec un moteur
des sphères qui ont été réalisées par David Picard. Il y en a énormément. Nous pouvons parler de toutes.
Alors, je suis Caroline Hancock, je suis commissaire d'exposition et critique d'art indépendante, basée maintenant à Paris, mais en fait, je suis franco-anglaise, donc j'ai beaucoup navigué entre ces deux pays notamment. J'ai commencé à travailler en 97 au Centre Pompidou et ensuite au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Je suis ensuite partie à Londres pendant 8 ans et 2 ans à Dublin, en Irlande. Et je suis revenue à Paris il y a 2 ans maintenant pour me lancer de manière indépendante. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Sarah Zurcher, qui est la directrice de l'École des Beaux-Arts à Tours, il y a quelques années à Alger. On s'est retrouvés là-bas pendant une exposition un été, le Panafricain. Et à l'époque, elle était elle-même commissaire freelance. Mais une fois que je suis revenue en France, elle a fait cette proposition à Christian Dautel et on s'est rencontrés. J'ai d'abord rencontré tout le monde. J'ai allé dans les 3 écoles et on a passé. Premièrement, ils m'ont présenté leurs travaux de manière collective et ensuite individuelle. Et je suis venue voir ce lieu, l'abbaye de Fontevraud. Et une fois que j'avais fait tous ces voyages et ces rencontres, j'ai commencé à réfléchir au projet. Et évidemment, l'architecture du lieu a un énorme impact sur ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Et ça a vraiment guidé le choix, en fait, des artistes et des travaux. En fait, ça fait longtemps que c'est un centre d'art. Ça a d'abord été un frac dans les années 80. Donc, il y a quand même une longue histoire de l'art contemporain dans cet endroit. Et ça n'a pas toujours été un endroit religieux, en fait, parce qu'après la Révolution, c'est devenu une prison, une centrale pénitentiaire, jusque dans les années 60 ou 70. Donc, il y a déjà eu énormément de strates très différentes dans cet endroit. Et c'est beaucoup d'histoires pour lesquelles on peut s'intéresser ou pas, selon les projets. Mais effectivement, moi, je me suis un petit peu intéressée et on a essayé de réfléchir à des moyens de mettre en valeur le lieu et certaines de ces histoires. On ne peut évidemment pas tout faire, mais il y a certains des travaux des artistes qui réagissent directement à cet endroit et certaines parties de son histoire. En fait, il y a un mélange. Donc, il y a certains artistes qui présentent des pièces qui étaient déjà faites, parce que c'est des pièces très fortes qui allaient fonctionner avec le sujet de l'exposition en quelque sorte, et d'autres artistes qui sont très très doués dans la réflexion par rapport à un lieu et qui se dirigent vers ce genre de spécialisation. Et du coup, c'était vraiment intéressant de les mettre face à ce challenge dans les celliers de Fontevraud. Donc je réfléchissais au lieu et aux contraintes de l'espace, puisque les celliers sont des espaces relativement restreints. Enfin, ils sont grands à la fois, mais c'est pas énorme non plus. Et on ne peut pas accrocher au mur. Et évidemment, c'est un monument historique, donc il faut vraiment respecter le bâtiment. Et du coup, je pensais à ça et aussi à l'ensemble des travaux que j'avais vus dans les 3 écoles. Et le mot sculpture m'est venu en tête et... Comme je suis moitié anglaise, je pense toujours à moitié en anglais et en français. Et le mot sculpturation m'est venu en tête, mais je ne savais pas si c'était un mot qui existait dans l'une ou l'autre langue. Donc je suis allée vers mon dictionnaire. Et en fait, le mot sculpturation existe effectivement. C'est un mot qui est principalement utilisé en psychologie. Et ça m'a paru intéressant de le tester, en fait, dans un univers contemporain, parce que il me semble, d'art contemporain, puisqu'il me semble qu'il pourrait être utile. Donc, j'ai écrit un petit texte qui est dans l'édition, qui essaye d'expliquer en quoi ça pourrait être utile. Voilà. Ça a été une très belle aventure, voilà, parce que c'est plutôt des questions d'individualité, des rencontres, et je crois qu'on s'est finalement bien amusé.
Bonsoir, juste une petite information, nous vous avions prévu un duplex avec Perrine Clément de Dublin qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu à l'heure prévue car la connexion n'a pas été possible. Donc nous reportons ce duplex à un petit moment n'importe quand dans la soirée. Merci. Donc nous sommes maintenant avec Sandra Richard, Fabien Yvon, Julien Lemoussy et Katharina Zbovova qui ont participé à l'exposition de Fontevraud, donc les cinquièmes années, une exposition qui s'appelle Sculpturation. Donc petite question, comment vous avez réussi à travailler avec Caroline par rapport à ses idées ou l'idée qu'elle se faisait du moins de l'exposition
Par rapport à cette proposition, donc c'était suite à ce regroupement des trois écoles. La tâche de Caroline était de réunir sur ces trois sites des étudiants qui pouvaient s'accorder sur une exposition. Après, c'est le choix aussi du lieu qui est l'abbaye de Fontevraud, qui est un lieu assez particulier, et notamment classé historiquement.
Oui, assez compliqué au point de vue de l'accrochage, il ne fallait pas toucher au mur, etc.
Donc du coup, ça orientait ses choix sur essentiellement des artistes qui travaillent la sculpture.
Et au-delà.
Et au-delà aussi. Et du coup, ses choix se sont portés donc, sur ces principes pour essayer de mener à travers ces trois écoles une exposition cohérente selon ses choix.
D'accord. Et justement, à partir du fait que ça regroupait trois écoles, est-ce que vous avez pu, vous, en tant qu'étudiant, participer au choix des œuvres exposées, ou des travaux exposés, ou est-ce que le choix a été fait par au-dessus, juste la commissaire, ou des profs, ou autre? Comment s'est déroulée, en fait, la sélection des travaux exposés
C'était pas au niveau des profs, c'était plutôt la commissaire.
La commissaire elle seule
qui... Déjà, au préalable, sélectionner des pièces. Après, c'est toujours aussi flexible et on peut en discuter et proposer des pièces nouvelles ou autres, mais non, ça reste quand même assez ouvert.
Oui, vous avez quand même pu, vous, avoir votre mot à dire par rapport aux choix effectués, etc. Ouais.
Et par rapport à la cohérence de l'ensemble des pièces aussi.
Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à l'interview qui a été faite juste avant de Caroline Hancock? Je ne sais pas sur la façon qu'elle a de voir la façon dont expose l'exposition ou ce qu'elle a à dire par rapport... Ou du moins ce que vous pensez du nom de l'exposition, Sculpturation. Est-ce que vous avez quelque chose à en penser ou la définition ou ce que ça en fait ressortir ou... Donc bah justement par rapport à Small Sculpturation, on va écouter pour rebondir après l'écoute qu'on va avoir d'une performance orale de Sandra Richard. Donc je vous propose de partir sur cette écoute et après on pourra continuer avec l'interview. Donc l'écoute orale de la performance, donc le centre nœud est une performance vocale de Sandra Richard à partir d'un extrait de la lettre aux acteurs de Valère Novarina qui questionne les enjeux d'une pensée où le corps est à la fois le sujet et le matériau même de la création. Ici, la voix forme une ambivalence douloureuse et jouissive, une profération soufflée comme pour expulser un excès, un trop-plein de résistance pressée et nouée dans le fond du ventre. La voix, dans son rapport conflictuel au corps qui est à la fois son entité et sa limite, fait acte comme pour affirmer sa matérialité, sa consistance ou mieux son organicité. Oraliser, c'est mettre en langue. Languer désigne l'acte de parler. Languer, c'est exprimer la tension des mouvements, de la respiration, pour faire sortir l'énergie vitale. Donc je vous propose d'écouter maintenant la performance qui a été réalisée lors du vernissage de l'exposition de l'abbaye Fontevraud. Elle nous est retransmise ce soir.
J'écris par les oreilles. Pour les acteurs pneumatiques. Les points dans les vieux manuscrits arabes sont marqués par des soleils respiratoires. Habituelle française d'aujourd'hui, où le travail de l'acteur consiste à découper son texte au travail.
Donc voilà, c'était la performance orale à partir de Novarina, de Sandra Richard. Donc, comme on le sait, le nom d'exposition, c'est Sculpturation. Donc, par son nom, ça laisse à penser qu'il s'agit que de sculpture. Et comme on vient de l'entendre, c'est beaucoup plus varié que ça. Mais entre autres du son et de la sculpture, on a aussi du dessin, de la gravure et du dessin sur fenêtre aussi. Par Katarina Zbovoza, donc
Sabova.
Pardon. Donc justement aussi, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au fait, par rapport à ce nom, à ce titre de sculpturation, enfin par rapport au nom direct de, est-ce que vous en pensez quelque chose, un avis ou comment on vous l'a annoncé, comment ça a été décidé, est-ce que c'était décidé déjà avant qu'on vous parle, enfin avant qu'on ait des réunions avec vous par rapport à l'entretien, ou est-ce que vous avez participé au choix du nom d'exposition ou...
Non, le choix de l'exposition était un parti pris de Caroline qui donc a découvert ce terme peu utilisé dans la langue française et dans le monde de l'art.
Oui, c'est un terme anglo-saxon.
Et donc du coup, c'était une façon de réunir à la fois une idée et plus que la sculpture, c'est une idée de...
Tout ce qu'un processus aussi, d'un processus de création.
Un processus plutôt.
Une chose qui se crée. Et c'est en ça aussi que les pièces n'ayant pas forcément les caractéristiques de la sculpture ont leur place dans cette exposition. Aussi bien les performances de Sandra que les
gravures de Fabien.
Le projet vidéo aussi de Julien qui retrace.
Oui, c'est vrai, il y a des vidéos aussi dans la grande salle du haut, ouais. Et les dessins de justement Katarina sur les fenêtres.
Ouais.
Donc c'est surprenant aussi un peu pour le spectateur, enfin pour moi-même qui ai du coup participé ou été au vernissage de. Enfin, avec les flyers, on pense que justement on va avoir à faire que de la sculpture, mais du coup c'est un peu surprenant pour le spectateur de se rendre compte qu'en fait il n'y a pas que ça, c'est un peu une surprise.
Oui, c'est ce que voulait aussi Caroline, je pense, à travers
ce terme-là. C'était un but voulu, justement.
C'était avec les contraintes du lieu, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Et sculpturation, c'est vrai que c'était un terme qui permettait d'englober à la fois la sculpture, mais aussi
large,
de pouvoir développer autour de ça.
Et comment avez-vous réagi justement à cette proposition? Comment ça s'est fait? C'est l'école qui vous a proposé ou cette proposition
La proposition d'exposition.
A été faite à toute la classe de 5e année
Oui, donc il y a eu une présélection. Au début, on a montré chaque étudiant.
Comme un peu un concours sur le même principe
Oui, non, enfin. Pas non plus, non.
Plus ou moins, en fait, Caroline a décidé de choisir les travaux en fonction de la possibilité d'accrochage dans le lieu. Donc d'où beaucoup de volume en fait dans l'espace et après des choses qui sont intégrées comme le dessin par des moyens en fait qui ne détruisaient pas le lieu en fait. Katarina a dessiné sur les fenêtres en utilisant du tissu qui est collé à même la vitre mais qui se décolle très facilement donc ça dégrade pas le lieu.
Et c'est comme moi, vos dessins
par rapport aux gravures, elles sont accrochées sur une planche et la planche elle est adossée contre le mur donc du coup il n'y a pas de
problème. Oui, il fallait trouver des subterfuges par rapport au lieu pour pouvoir accrocher certains travaux.
Oui.
En fait, Caroline a choisi ses travaux en réunissant ses projets en fait, qu'elle a choisi. Et ce que je faisais, le dessin sur la fenêtre, comme c'était déjà dit, il y avait la proposition de faire couvrir la fenêtre parce qu'il y avait une difficulté d'espace, il y avait un travail derrière, alors c'était un peu nécessaire de couvrir la fenêtre.
C'était un choix qui vous appartenait de recouvrir la fenêtre ou c'est une proposition qui vous a été faite ou c'est une solution que vous avez trouvée vous-même?
Oui, c'était en fait ça la question. Parce que Caroline m'a proposé de couvrir la fenêtre et de faire un dessin. Alors, on a dû trouver une moyen de le couvrir, que ça soit représentable, que, utile, et que ça travaille avec l'espace aussi. Alors, au début, ça devrait être couvert avec le bois, mais il y aura d'autres façons de dessiner. Après, le carton, ça ne marchait pas. Alors, on a choisi faire le tissu, et c'est un bon choix.
Et peut-être pour la question de luminosité aussi, le tissu,
du coup, c'est adapté mieux. Luminosité, oui. Oui. Cette transparence joue aussi, et du coup ça joue aussi avec l'espace derrière cette exposition, derrière cette pièce dehors en fait.
Et est-ce que pour chacun d'entre vous, par exemple, cette expérience d'exposition au grand public est la première, ou vous avez peut-être déjà eu d'autres expositions de proposer ou de réaliser dans le temps passé
Julien, c'est, je pense à toi là.
J'ai eu l'occasion effectivement de montrer mon travail sur différentes invitations, notamment à l'Armoire à Gaz, qui est une association proche du Mans, où j'ai eu la chance d'être invité par Thomas Ducet sur une carte libre.
Et Thomas Ducet, qu'on a déjà eu l'occasion d'interviewer dans des précédentes émissions,
qui est un ancien étudiant.
Oui, aussi fait une exposition au sein de l'école. Oui.
Donc c'est à chaque fois une expérience nouvelle, à la fois des rencontres différentes, parce que à chaque fois ça a été des expos collectives, et c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres artistes, de se confronter à la présence de leurs pièces aussi à côté des nôtres, parce que c'est des mariages à chaque fois différents, et ça permet à chaque fois de voir son travail, en tout cas hors de l'atelier, et de pouvoir...
Mais comparer aux travaux peut-être de d'autres personnes aussi
Pas forcément comparer, mais ça les confronte, ça les... Mm. Ne serait-ce que les sortir de l'atelier, c'est déjà une expérience bien et très enrichissante à chaque fois. Donc,
et tout le travail, en fait, d'exposition, c'est tenter de pouvoir faire coïncider deux travaux qui n'ont de prime abord aucun point commun, en fait. C'est développer ça. Je pense que quand on y arrive, c'est réussi.
Donc c'est quand même bénéfique pour vous d'avoir l'occasion, justement, d'exposer en extérieur, avec d'autres gens.
Oui, bien sûr.
Ça permet aussi d'appréhender le fait d'exposition, d'être confronté à une commissaire, d'autres personnes qu'on ne connaît pas ultérieures, de voir comment on organise les travaux dans l'espace, etc.
C'est toujours enrichissant.
C'est un bon exercice.
Et puis, ne serait-ce que l'exercice de faire cohabiter des pièces, parce que pour le coup, à Fontevraud, on était 16 artistes invités, donc dans un lieu qui était assez petit.
Et justement pour ça, est-ce que vous avez choisi vos espaces vous-même, ou est-ce qu'on vous a obligé de choisir tel ou tel espace, ou est-ce que c'est la commissaire qui a sélectionné les espaces pour vous, ou est-ce que vous avez choisi ensemble?
Ça reste quand même le travail de la commissaire,
d'organiser
son expo. Mmh. À la base, c'est ses choix de nous avoir invités, nous, et donc c'est son travail de faire cohabiter toutes les pièces, que c'était la seule personne qui avait une vue sur l'ensemble des pièces avant l'exposition, donc forcément tout passait par elle, et c'est...
En fait, excuse-moi, en fait je pense qu'il y avait ce travail ensemble avec Caroline et les artistes, et les artistes ensemble de trouver une solution, même pour... Il y avait au milieu une plateforme pour exposer des plus petits ouvres.
Le socle au grand milieu de la
salle. Oui, le socle. Et en fait, ça, c'était aussi une question à trouver en façon. Et c'était.
De comment exposer les plus petites pièces par rapport aux autres.
C'est sûr que c'était un parti pris. Caroline avait pris d'entrée, parce que dès nos premières réunions, elle avait évoqué justement cette hypothèse d'avoir un socle central de plus ou moins en référence, il me semble, avec les gisants qui sont présents dans l'abbaye. Et en tout cas, c'est un travail qui a été assez, je pense, pour elle dur, parce que réunir 16 artistes qui sont sur 3 sites différents, qui ont tous aussi des
pratiques différentes.
À la fois des pratiques et des échéances. On est tous dans nos diplômes.
Aussi, parce très que les étudiants de chaque école étaient en cinquième année, c'était là.
Oui, ça réunissait donc tout.
C'était une contrainte en plus, du coup, de pouvoir réaliser cette exposition en parallèle de la préparation du diplôme.
C'était un challenge, mais, mais c'était en tout cas une super expérience que je souhaite à tout le monde.
Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette exposition? Un commentaire négatif ou positif, comme vous le souhaitez? Ou, je ne sais pas, un message, etc. Ou quoi que ce soit?
Je pense qu'il est important déjà de remercier Caroline à la fois du travail qu'elle a fait et de cette occasion qu'elle nous a offerte d'exposer dans cette abbaye.
Oui, parce que vous avez quand même, du coup, ça fait pas un petit coup de pub, mais presque, vous avez quand même un livret d'exposition qui est plutôt pas mal réussi.
Des moyens qu'on avait, oui.
Puis c'est toujours agréable de commencer à sortir les travaux avant d'avoir fini ses études, parce que c'est pas en ayant fini ses études qu'on va se demander, bon, bah, comment j'expose. Et du coup, on est face à quelque chose qu'on connaît pas, alors que là, aujourd'hui, avoir été confronté à un lieu assez difficile en plus, avec beaucoup d'artistes, donc du coup, ça fait une exposition assez compliquée à concevoir. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est assez importante, au final, avant la sortie des Beaux-Arts.
Oui, surtout que ça pousse à en faire d'autres, ça donne envie, je pense.
Oui, un peu comme un tremplin, ça questionne et ça donne envie de voir plus loin. Bon, je vous remercie tous les quatre alors d'avoir participé à cette interview. Donc, on rappelle les participants, Julien, Sandra, Katharina et Fabien. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mes questions. Je vais enfin vous libérer. Et donc maintenant, on va passer au duplex, enfin un vrai faux duplex avec Bourges, la radio de l'école des Beaux-Arts de Bourges. Donc, ce soir, c'est Lucie Pillon et Thomas Caillé qui nous proposent une pièce. Donc, je vous cite leur chapeau. Nous sommes partis en Turquie et en Grèce dans le cadre d'un projet d'études, Outland. Ce projet réunissait des étudiants de Limoges et de Bourges. Chaque individu devait mener un projet. Celui-ci devait se bâtir à partir de captations sonores, de prises photographiques et vidéos. Durant ce voyage de 10 jours, j'ai mené avec un étudiant de Limoges, Thomas Caillé, un projet basé sur le hasard que peut nous offrir une ville inconnue. Cette pièce sonore retrace notre errance dans les rues d'Istanbul. Notre rencontre et tout ce qui peut s'y rattacher, barrières de langage, incompréhension et échange, etc. Les principaux éléments de la pièce proviennent d'un principal échange avec un jeune épicier. Frat, ne parlant ni anglais ni français, la communication s'est établie grâce à un téléphone portable servant de traducteur. Quelques bruits électroniques, des mots hachés et une voix féminine plutôt automatique. Les sons de travail artisanal ne sont pas mêlés à notre discussion. La musique servant notre âme a été enregistrée dans un bar en Grèce à notre retour de Turquie. Je vous laisse apprécier l'écoute. Bonne soirée!
Benim memleketim Mardin. Mardin est ma maison. Mardin.
Siz nereye gitmeyi düşünüyorsunuz şimdi?
Yolunuz açık olsun.
vais voir qu'est-ce que ça veut dire, jaloux.
Jalousie.
Fabien Bourlet nous fait découvrir ce soir un morceau couronné lors de sa sortie sur le label anglais Psychoactive Records par une place dans le top 10 break sur Beatport. Ce son s'inscrit dans la nouvelle tendance psy-break. Rythmique syncopée, sonorité psychédélique, c'est maintenant sur Radio On avec le remix du morceau Slaves of Consumption de Madmine par le producteur espagnol Blazer.
Rebonsoir, c'est encore moi. Donc, juste qu'on vous a présenté en début de soirée des pièces des premières années par Alice Gravé. Donc, on vous en met deux autres à la suite. Voilà.
Initiation sonore. Première année. Jason Huvet et Vincent Leclève. Usine sous-marine. Initiation sonore. Première année. Luc A.R., Thibaut Averti, Tanguy Claire. Trois gouttes d'harmonique.
Une pièce sonore de Laurie Andine,
fait à partir de vidéos réalisées.
De vidéos réalisées en 2010 lors d'un voyage d'un mois en Argentine. Bonne écoute!
comprarme un habano para que camine como hispano. Hay que mancharme los zapatos con fango de la sierra para arrancarle la postura de cheesecake en Inglaterra. Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica. No come dulce de leche por el colesterol. Dice palabras en inglés de corazón español.
Dissonance orecchiabili. Dissonance acoustique. C'est un jeu de musique originel composé avec des pièces pour fanfare. Plusieurs morceaux de musique joués par la Società Filarmonica di Bussoleno se surposent, ralentissent et accélèrent. Chaque morceau de musique cherche de gagner d'importance et de faire entendre sa présence par rapport à les autres. C'est dans cette mélange de sonorités, dans cette dissonance, qu'est appelée la notre subjectivité auditive. Exactement comme dans la vie quotidienne, dans la rue, dans un bar ou n'importe où, notre oreille a une marge de pouvoir de choix sur ce qu'il écoute. Notre oreille, comme la radio, il peut choisir sa fréquence. Donc, je vous propose l'écoute subjective de ces pièces. À vous le pouvoir d'écouter le morceau que mieux arrive à votre oreille.
On fait 3 par 3. 4 par 4. 5 par 5. 6 par 6.
Vous savez que vous êtes à l'antenne, les filles.
Oh, oh oui. Mes amis, nous vous rappelons que vous pouvez toujours écouter cette émission ainsi que toutes les précédentes sur radio-on.org. Ce soir, à l'antenne, à la console et en coulisses,
Pauline Gerfi,
Julia Roland,
Perrine Clément,
Florestan Guterres,
Sandra Richard,
Laure Sablé,
Thomas Roturo,
Bertie Duval,
Vincent Floquet,
Anine Letard,
Julie Knabel,
Marion Le Glévic,
Alice Gravé,
Fabien Bourlier,
Florian Bajon,
Lauriane Dean,
Henri Michel Jean,
Arnaud Wain, Mathilde Longelin,
Félix Agide,
Christian Morin,
Fabien Yvon,
Lucie Pillon
et Thomas Caillet
de Bourges. Nous remercions l'équipe de l'école, particulièrement Henri Michel, ainsi que les instigateurs du projet radiophonique, Philippe Langlois, Christophe Domino et Olivier Huy. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et à très bientôt sur Radio Anne. Radio Anne.
On peut faire des bonus, on peut faire des bonus si vous voulez.
On fait des bonus, on fait des bonus. On fait des bonus. Ferme la porte, on fait des bonus.
On a l'antenne.
Oui,
c'est vous êtes sur la tête depuis tout à l'heure.
Donc il paraît qu'on fait des bonus.
C'est exprès, hein. C'est
exprès. Oui, parce qu'en fait, on est un petit
donc,
peu...
Donc en fait, on voulait faire un petit duplex avec Philippe Langlois, qui est un grand indicateur dans ce projet, mais qui visiblement ne veut pas nous répondre. Donc du coup, on fait sans Philippe. Donc comment vous dire... On sait juste que l'émission était un petit peu plus courte que d'habitude, voilà. Mais en fait, d'habitude, on fait un petit peu plus longtemps, et là, on avait visé plus large, et en fait, on se retrouve à faire plus court. Donc, on va demander à Catherine... Catherine de 5e année qui actuellement prépare son diplôme de nous parler de son travail. Catherine, ton travail.
Já vám to vysvětlím takhle, jedná se o to, že
ve francouzském jazyce
vám vůbec nemůžu mluvit. Nemůžu vám v tom mluvit, prostě to vůbec by nebylo možné. Takže Bertie, prosím tě, vysvětli mi, jak to vlastně
bylo. Catherine dit qu'elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Catherine aime beaucoup son travail. Catherine travaille la photographie. Catherine, peux-tu nous en dire plus?
Ne, 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 to vůbec není pravda, teď jsi se trošku spletla, Bertie. Jedná se o to, že dělám především video a takový jako sociální věci, politický a tak. Takže můžeš o tom mluvit, jo, je to v pohodě.
Je pense sans être sûre que Catherine dit qu'elle aime beaucoup faire de la photographie, que Catherine travaille de la vidéo et que Catherine a fait un morceau de bout de fer rouillé bizarre.
Bertie,
tu sais,
vous, Bertie, ce n'est pas compris. Nevadí to.
En fait, je ne comprends pas ce que Catherine dit, mais Catherine a l'air à fond dedans, donc on va laisser Catherine parler. Catherine parle.
Ano, takže dále bych jednala o tom, že to, co Bertie povídá, tak to vlastně, ona vůbec neví, co říká. Ona vůbec neví, co říká, jde o to, že v podstatě dělám takové věci, které se jednají různých témat. Možná nejsem si jistá, možná, že Bertie by vám o tom něco mohla povědět ještě.
Je crois que Catherine me vient de me demander quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Catherine, que viens-tu de me demander?
V podstatě máme takový jako rozhovor. Rozhovor, víš, co to znamená? Rozhovor. Rozhovor.
Oui, tout à fait, oui.
Jo? No tak povídej, povídej. Já ti nechám naprosto volný slovo, můžeš se vyjádřit, je to v pohodě.
Oh, Manu vient de rejoindre la conversation. Manu, un commentaire à faire sur le discours de Catherine?
Oui, tout à fait, Catherine. Quand vous parlez du concept du papillon, est-ce que vous pouvez être plus explicite?
Lèche-moi! Lèche-moi!
Dobře, tohle s tím vysvětlím, je to velice zajímavé téma. Jedná se o to, že motýlek, jak byste řekli papillon, tak v podstatě je to takový létavý objekt, který se zastaví občas na různých místech a o to já se zajímám. V podstatě já jsem takový papillon.
Tout à fait, mais quand vous parlez de la démarche justement de Marcel Broutac, Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un conflit entre la forme et justement cette espèce de complexité de la couleur?
O tom bych ani tak jako nepojednávala. O tom bych tak nepojednávala. Myslím si, že jsou tam jiné problematiky, o které bychom měli řešit.
D'accord. Et dans cette problématique, je veux dire, peut-être que le spectateur, enfin, pardon, l'auditeur aurait du mal exactement à comprendre le fond. Vous pouvez.
Já mu to vysvětlím. Já mu to vysvětlím. To není žádný problém. Jedná se o to, že v tento moment my tady vlastně hovoříme, bez toho, aby jsme vůbec hovořili. Jo. Není tu žádný porozumění, vy mi nerozumíte, já vám rozumím, což je můj pozitivní bod, ale můžete mi dále klást otázky, to je v pořádku.
Oui, tout à fait, nous avons
que... Je pense que votre concept recoupe le concept, enfin, la grande phrase de Mies van der Rohe, Six Morts, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça?
Na tohle se nevyjadřuji.
Je veux dire, les six morts, pardon Catherine. Na zdraví, tout le monde sait ça.
Na zdraví.
Tak na zdraví.
Oui, tout à fait. Voilà. Des questions, Vertier?
Sur les papillons, que pouvez-vous nous dire, Catherine?
Papillons.
Oui, cette espèce d'opposition entre...
La lumière et l'ombre?
Oui, tout à fait.
Ne, já bych nebyla tak poetická. Já bych v žádném případě nebyla tak poetická. Motýl, to je prostě takový tvor, který žije den a který se tak za ten den přelétává. Myslím si, že to nevztahuje na naše problematiky, na naše životy, takže to bych vůbec, no, bych tohle nějak jako nerozváděla. Asi ne, no.
Oui, tout à fait. J'adore, personnellement.
Bon, après cette petite interview bilingue entre tchèque et français, je vous propose de passer à une petite blague carambar. Oui. Donc, je vous lance. Vous êtes entouré d'un lion, un guépard et un ours. Comment faites-vous pour vous enfuir?
Je cours.
Non, ce n'est pas ça.
Je crie.
Je réédite la question. Vous êtes entouré d'un lion, un guépard, un ours. Comment faites-vous pour vous enfuir? Réfléchissez bien.
On saute.
Non, on descend du manège.
Excellent.
Bon, je pense, chers amis auditeurs, que nous avons peut-être rattrapé notre retard. Demandons à Thomas. Thomas, quelle heure est-nous à la timeline?
Quelle heure est-nous? Alors, quelle heure
est-nous?
21h40.
Mon Dieu, nous avons 20 minutes d'avance. Est-ce que quelqu'un autour de cette table ronde entourée de micros s'est trouvé rajouter quelque chose pour combler les 20 minutes manquantes?
Pendant 20 minutes comme ça?
Pendant 20 minutes comme ça, tout à fait.
Écoute, je propose une petite lecture. Est-ce que quelqu'un a ce formidable exemplaire de l'œuvre d'art à l'air de sa reproductibilité technique?
Walter Benjamin, que quelqu'un sorte son bouquin de première année acheté en première année aux frais de l'école. Walter Benjamin, l'œuvre d'art. Non, personne.
Mathilde est partie nous le chercher.
Mathilde va nous le chercher. Il faut donc que nous comblions ces 20 minutes par une conversation. Petite note à bene, je suis sûre que Philippe Langlois, qui nous écoute actuellement, est très fier de notre performance en son absence.
D'ailleurs, nous tenons à remercier
Philippe. Il ne le sait pas encore, car Philippe garde son enfant et peut-être parti sous nos sources à un concert. Il aura donc la joie de découvrir notre magnifique performance.
Et le petit texte qui arrive.
Oh, attention,
non,
nous avons
un extrait
de
la Rosaline Krauss.
Très bienvenue.
Magnifique.
Très
bienvenue. Je propose donc à Catherine de nous lire en tchèque le premier paragraphe de ce passage.
Dobře, takže Rosalind Krauss...
Elle traduit en direct.
Na začátku tohoto století formální struktura, která začala se obnovovat ve Francii a poté v Rusku a v Holandsku, struktura, která odjakživa byla emblematickým, ambiciózním, modernistickým přístupem ve vizuálním umění. Bon, Bertie, je vais peut-être tout demander quand même pour...
La suite, pas de problème, oui.
Traduction peut-être, non?
Traduction. Donc, Rosalind Krauss grille. Au début de ce siècle, une structure formelle commença à apparaître. D'abord en France, puis en Russie et en Hollande. Structure qui est depuis lors restée emblématique de l'ambition moderniste des arts visuels. Apparaissant dans la peinture cubiste d'avant-guerre et devenant par la suite plus rigoureuse et plus manifeste. La grille annonce, entre autres choses, la volonté et le silence de l'art moderne, son hostilité envers la littérature.
Il y a quelque chose que j'ai envie de souligner.
Pas de problème. Catherine, je t'en prie.
Souligner ce qui est souligné dans le texte de Mathilde. Donc la grille annonce l'art moderne, son hostilité envers la littérature, le récit et le discours.
Mathilde, pourquoi as-tu souligné cette phrase dans le texte?
Donc, je pense que Mathilde, par son petit signe significatif de la main, souhaite nous dire qu'elle est significative.
En fait, c'est nous à la table de mixage. On peut vraiment les couper
et faire vraiment ce qu'on veut, en fait. C'est ça le truc qui est intéressant. Quand on est directeur technique, on peut tout faire. On a juste à bouger un bouton et puis...
Là, elle pense qu'elles sont en haut, alors qu'en fait, c'est nous qui parlons, puisque nous sommes à la table de mixage.
Oui, voilà, donc après, c'est pas très... On les laisse dans leur délire.
On les remet pour voir.
Bon, allez, pour voir si c'est intéressant ce qu'elles disent quand même.
À tenir nos promesses par rapport au duplex de Perrine en direct de Dublin qui malheureusement n'a pas répondu à nos appels, donc nous excusons et peut-être portons-nous ce direct à plus tard. Donc je vous souhaite une bonne soirée de la part de toute l'équipe de Radio Anne du Mans et merci de nous avoir supporté jusqu'à presque 22h et on vous embrasse tous et au mois prochain. Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.